Léandre Béret.
Bonsoir, Marcel Finisterre, largement plébiscité à Moutier. Le maire sortant a été réélu cet après-midi avec plus de 70% des voix contre Francis Pelaton. C'est donc bien l'autonomiste qui transférera la ville dans le canton du Jura. Radio à roulette pour les élèves de la région. Le radiobus était de passage cette semaine à Delémont et Bellay. Les écoliers ont réalisé une émission d'une heure et demie. Et dans la page sport, nous ferons le point sur le choc des phases de groupe de la Coupe du Monde de football au Qatar. L'Espagne et l'Allemagne s'affrontent à 20h. Analyse de cette affiche après le journal. La couleur dominante dans le ciel de la région ces prochains jours, c'est le gris. Les nuages seront maîtres, même s'il ne devrait pas trop pleuvoir. Il ne fera pas plus de 8 degrés demain. Marcel Finisterre sera bien le maire qui transférera la ville de Moutier dans le canton du Jura. Le sortant autonomiste a été réélu cet après-midi pour un nouveau mandat avec 1300 voix contre 503 seulement à son adversaire Francis Pelaton. Cela représente 72% des suffrages. Marcel Finisterre faisait figure de favori dans le contexte toujours un peu particulier de la politique prévotoise. Il se réjouit d'être le maire qui assurera cette période exaltante du transfert de la ville.
Pour la position que j'occupe, celle de maire, c'est effectivement extraordinaire parce que je pense que je ne connais pas d'exemple d'une ville de 7000 habitants qui change de canton. Donc c'est un changement d'institution, c'est quelque chose de franchement d'extraordinaire. Et de vivre ça à l'intérieur, puis d'être à la tête de cette commune qui va vivre cette période-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et puis je me réjouis évidemment de vivre ça.
Votre adversaire du jour l'avait dit, hein, quand il a annoncé sa candidature, il voulait représenter aussi les 45% de prévotois qui n'ont pas voulu changer de canton. Aujourd'hui, environ 30% de personnes qui ont suivi Francis Pelaton. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces personnes peut-être ?
Oui, alors évidemment pour ces 30%, je peux que leur dire encore une fois de se rattacher au projet, parce que je suis sûr que chacune y trouvera sa place.
Un message qui s'adresse à un camp antiséparatiste que le candidat battu représentant du mouvement Moutier à venir n'estime pas affaibli malgré son score, Francis Pelaton.
Non. Je le redis, hein, il y a 45% de gens à Moutier qui sont antiséparatistes et je pense pas que ces gens-là, ils aient changé d'idée ou comme ça. Ils viennent pas et puis ils baissent les bras, on n'a plus envie, et puis voilà. Alors, quant à ce qui s'allie avec les autonomistes, je crois pas, mais peut-être dans quelques générations. Pour l'instant, non.
Cette démobilisation du camp Probernois, vous l'avez senti venir quand même ?
Ben ouais, plus particulièrement ici. Hein, bon, je fréquente plutôt les anti-autonomistes quand veulent encore un peu, mais il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Oh, tu vois, matière de haut, t'as passé à la poubelle, à quoi ça sert ?» Et voilà, quoi, c'est un peu comme ça.
Des réactions recueillies par Olivier Zano. Les forces en présence au conseil municipal de Moutier resteront les mêmes qu'avant. 6 élus pro-jurassiens et 3 pro-bernois. Outre le maire Marcel Finisterre, le centre est parvenu à conserver ses 2 sièges avec la réélection de Pascal Eschmann et l'arrivée de Clément Picret. Le Parti Socialiste Autonome garde ses 3 fauteuils en réélisant ses sortants, Valentin Zoubert, Pierre Sauvin et Karim Bortoloussi. L'UDC gagne 1 siège et en comptera 3. Les sortants Marc Tobler et Suzanne Koller ainsi que Stéphane Girardin, nouvel élu. Au Conseil de ville, l'entente jurassienne conserve sa majorité avec l'obtention de 28 sièges sur les 41. Mais le fait notable du jour est le retour des forces antiséparatistes dans l'hémicycle. Le mouvement Moutier à venir, composé en majorité par des antiséparatistes, est parvenu à faire élire ses 10 candidats. Vous retrouvez le détail de ces élections prévotoises sur rfj.ch. À Tramelan, la mairie change de main pour 71 voix. Le socialiste Hervé Gulotti a remporté l'élection aujourd'hui face au maire sortant PLR Philippe Augsburger. Et la ville de Bienne sera privée de budget au début de l'année prochaine. Les citoyens ont refusé aujourd'hui par près de 70% des votants les 2 variantes qui intégraient chacune une hausse d'impôts. Le conseil municipal devra maintenant élaborer une nouvelle mouture du budget. La directrice des finances de la ville a déploré « Bienne n'aura aucune base légale pour prendre des décisions. Seuls les engagements indispensables pourront être consentis ». Et Belleville devra atteindre la neutralité climatique d'ici à 2037. Les citoyens balois ont préféré un contre-projet du gouvernement à une initiative qui exigeait que l'objectif zéro gaz à effet de serre soit atteint en 2030 déjà. L'initiative pour un canton de Belleville respectueux du climat lancée par les milieux de gauche a obtenu 57% de oui. Mais près de 64% des citoyens ont approuvé le contre-projet et 62% l'ont préféré à l'initiative. Encore un dernier point en votation, les Valaisans ont largement accepté aujourd'hui une loi qui encadre la pratique de l'assistance au suicide en institution. Le nouveau texte garantit aussi l'accès aux soins palliatifs. Plus de 75% des votants l'ont approuvé. À l'international, le gouvernement italien a proclamé aujourd'hui l'état d'urgence pour l'île d'Ischia, située en face de Naples. Elle a été touchée hier par un grand glissement de terrain qui a fait au moins 4 morts et une dizaine de disparus. Les Chinois en ont plein les masques. Des protestations contre les confinements à outrance ont éclaté aujourd'hui à Shanghai, dans des universités de Pékin et dans d'autres villes, dont Wuhan. La colère monte contre la draconienne politique de zéro Covid menée par les autorités du pays depuis près de 2 ans. Et les autorités iraniennes ont arrêté la nièce du guide suprême, Ali Khamenei. Selon son frère, elle lui reproche d'avoir dénoncé la répression du mouvement de contestation en Iran et qualifié le pouvoir de régime assassin. Une voiture termine dans un arbre entre Bure et Buis ce matin vers 5h. La police cantonale jurassienne indique que le véhicule est sorti de la route dans un virage à gauche. Les deux occupants ont dû être désincarcérés. Ils ont ensuite été acheminés par l'ambulance à l'hôpital de Delémont. Le tronçon a été fermé à la circulation pour une durée d'environ 2 heures. Et puis ce matin, une fumée impressionnante est montée dans le ciel à Joulo. Des locaux en bois ont pris feu sur le site de l'ancien aérodrome de Courtedoux. L'alerte a été donnée vers 9h20 selon la police. Le feu a totalement détruit ces bâtiments attenant au restaurant du relais de l'aéro qui lui a pu être préservé grâce à l'intervention des 40 pompiers mobilisés. L'incendie a été maîtrisé vers 10h40. Aucun blessé n'est à déplorer. Une radio sur roue pour mettre en piste les écoliers. C'est le concept du radiobus qui veut inciter les classes à s'essayer à ce média. L'occasion de travailler l'expression écrite et orale et de s'initier à la technique. Le radiobus était de passage cette semaine dans la région pour la semaine des médias. Des élèves de Delémont, de Bellay et du Locle ont relevé le défi de réaliser eux-mêmes une émission d'une heure et demie. Les explications du responsable de la semaine des médias, Christian Georges.
Le radiobus circule essentiellement dans le canton de Vaud, puisque c'est un projet vaudois. Mais pendant cette semaine des médias à l'école, on a réussi à monter une tournée romande. Donc il se déplace dans les 7 cantons francophones de Suisse romande. Et puis les élèves ont eu droit à un coaching, alors très en amont. Ils ont pu se familiariser avec le radiobus qui est venu dans leur école au préalable. Et puis on a bénéficié cette année de l'apport de tous les professionnels des radios régionales qui sont venus aider les classes à expliquer comment on préparait un sujet radio, comment on écrivait pour la radio et toutes les ficelles et astuces pour assumer un direct, puisque ces classes ont quand même un sacré défi, c'est-à-dire d'animer 1h30 de direct depuis leur école.
Est-ce que c'est peut-être l'occasion aussi d'éveiller des vocations auprès des jeunes ?
Alors c'est très possible, il y en a qui se débrouillent déjà très très bien, qui savent maîtriser ce direct et puis rebondir de manière très habile. Mais le but, c'est davantage de faire un exercice où ils se rendent compte de tout le travail qu'il y a en amont. Parce que souvent, on a l'impression qu'il suffit d'avoir de la tchatch hein, pour faire des vidéos YouTube ou pour faire de la radio. Et là, ils se rendent compte de tous les impératifs, de toutes les contraintes qui sont celles des journalistes.
Christian Georges répondait à Diana Dacosta. Vous retrouvez notre reportage sur la réalisation de l'émission des élèves de l'école secondaire de la Courtine à Bellay sur rfj.ch. Sport. Les SR Delémont n'ont pas tremblé cet après-midi, Loïc Georgi.
C'était même une démonstration de tranquillité à laquelle on a eu droit. Les hommes d'Anthony Siroufo sont champions d'automne grâce à leur victoire contre Koenitz 3-0 cet après-midi. Cette rencontre était la dernière de la première partie de saison de Première Ligue de football. Les SRD s'assurent ainsi de rester dans le fauteuil du leader jusqu'à l'année prochaine avec une marge de 3 points sur leur poursuivant. La moitié du travail est donc faite dans l'optique de monter en Promotion League à l'entraîneur Anthony Siroufo.
Rien n'est fait, on est parfaitement dans nos objectifs, donc on est très satisfait. Et puis maintenant, on va bien couper, bien les laisser se reposer, puis grosse prépa pour attaquer, finir le boulot, comme on dit.
Donc les SRD tout en haut du classement de Première Ligue, finalement, qu'est-ce qui a fait la différence sur ce premier tour ?
Moi, je pense un peu tout, on a fait une grosse prépa, les garçons ont très bien travaillé, ça a bien pris dans l'état d'esprit, on a de la qualité, ça c'est très clair, indéniable, et puis on a des garçons qui n'ont rien lâché, tout le long, on a réussi quasiment comme on l'a dit, on a annoncé à tout le monde qu'on voulait monter, donc chaque match a été après disputé, et puis je crois que hormis un ou deux petits regrets, où c'est toujours difficile, mais je pense que les garçons ont joué quasiment chaque match comme des finales, et puis ça nous permet d'être tout en haut. Maintenant, rien n'est fait, et puis il faudra repartir dur en février.
Nouvelle surprise dans cette Coupe du Monde au Qatar. La Belgique a été battue par le Maroc 2-0 cet après-midi dans le groupe F. Le Maroc prend ainsi les rênes dans cette poule. Et autre match de ce groupe, le Canada et la Croatie ont des coups en ce moment même. Et c'est toujours 2-1 en faveur de la Croatie alors qu'on joue la 50e minute de jeu. Ce soir, c'est en quelque sorte le choc des matchs de poule de ce mondial. Le champion du monde 2010, l'Espagne, affronte le champion du monde 2014, l'Allemagne, à 20h. Une rencontre entre deux formations en pleine mue qui s'annonce palpitante, d'autant plus que l'enjeu est de taille. Leonard Reichen.
Oui, c'est un enjeu de taille et d'autant plus pour l'Allemagne. La Mannschaft va absolument devoir relever la tête après sa défaite contre le Japon 2-1 lors de son premier match au Qatar. La rencontre de ce soir se jouera entre deux formations qui sont plus ou moins dans une phase de reconstruction. Après plusieurs années d'or entre 2008 et 2014, les deux équipes doivent compter désormais sur une nouvelle garde avec de jeunes joueurs qui n'ont encore pas forcément l'habitude des grands événements. La mue de l'Espagne semble légèrement plus avancée que celle de la Mannschaft. L'Aurora a en tous les cas séduit avec une victoire étincelante 7-0 lors de son premier match contre le Costa Rica. La dernière rencontre entre l'Allemagne et l'Espagne ne donne pas les faveurs de la cote aux Allemands puisqu'ils avaient reçu une véritable gifle il y a 2 ans, pratiquement jour pour jour 6-0. Mais on le sait, en football, seule la réalité du terrain compte.
Dans le même groupe, le Costa Rica a recentré les débats en dominant le Japon 1-0 ce matin. Et toujours en lien avec ce mondial, après Neymar pour le Brésil, c'est Noah Okafor pour la Suisse qui déclare forfait pour la rencontre de demain. L'attaquant de Salzbourg est out en raison de problèmes musculaires à une cuisse. Il ne s'est pas entraîné avec le reste de l'équipe aujourd'hui, nous annonce le médecin de l'équipe de Suisse. Wendy Holdener va se battre pour la victoire lors de la deuxième manche du slalom de Killington aux États-Unis. La skieuse suissoise est deuxième à 21 centièmes de l'américaine Michaela Schifrin. Elle qui n'a d'ailleurs jamais été battue en slalom sur cette piste du Vermont. 5 filles sont dans les 4 dixièmes et peuvent donc prétendre à la victoire finale. Début de la deuxième manche à 19h.